Alléluia. Père, nous te disons merci ce matin. Nous sommes tellement bénis d'être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Ta parole nous dit, voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Père, tu nous as aimés et tu nous aimes encore. Et tu nous aimes toujours. Et parce que tu nous aimes, tu veux que nous apprenions à penser. Tu veux que nous apprenions à voir. Tu veux que nous apprenions à parler comme toi. Tu veux que nous ordonnions nos vies selon ta parole. Tu veux que nous fonctionnions sur terre comme tu le désires. Tu veux que nous, en tant qu'Église, ayons une façon d'être et un fonctionnement qui t'est agréable. Tu veux que nous allions au-delà de notre expérience limitée, parfois tronquée. Que nous allions au-delà de ce que nous voyons autour de nous et que nous saisissions ce que toi tu veux. Père, nous t'invitons ce matin à faire pénétrer ta parole dans nos cœurs, à faire tomber les forteresses dans notre pensée, à faire tomber les barrières dans notre vision, à nous amener à commencer à saisir et comprendre les choses célestes, les choses divines, les choses merveilleuses, les choses extraordinaires qui sont dans le cœur de Dieu. Nous t'invitons aujourd'hui, Père, à nous faire aller au-delà de ce que nous avons saisi, compris jusque-là, pour nous faire entrer dans une autre dimension de compréhension des choses de Dieu, qui nous amène, éternel, à ne plus être esclaves de nos préjugés, à ne plus être esclaves des structures que nous avons connues, des systèmes que nous avons connus, à sortir du carcan où nous étions, mais à avoir la liberté en Christ, pour voir selon Christ, et que nos vies soient transformées, que notre Église soit transformée, pas uniquement pour nous, mais pour ta gloire éternelle, pour que tous ceux qui vont venir à Christ à travers nous puissent apprendre à être l'Église, selon ton cœur, non pas selon le modèle tronqué que nous avons vu. Père, parce que nous voulons être agréables. Nous savons que c'est avec ta parole que tu démantèles les forteresses. C'est avec ta parole que tu bâtis les structures divines. C'est avec ta parole que tu amènes la sagesse, la compréhension, la vérité. C'est avec ta parole que tu ordonnes nos pas et ta parole est une lumière. Et c'est elle qui nous guide, qui nous conduit, qui nous montre le chemin. Nous te disons, Père, aujourd'hui, nous voulons comprendre. Et nous voulons saisir. Et ce que nous avons déjà entendu, nous voulons réentendre. Pour que cela pénètre pleinement nos cœurs. Et Père, nous te demandons aujourd'hui, dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta bonté, dans ton amour pour nous, de nous conduire par ton esprit, de nous donner la révélation par ton esprit, de nous amener à réellement saisir, de faire en sorte que ce message soit livré par la puissance de ton esprit et reçu par la puissance de ton esprit. Nous te remercions, Père. Nous voulons vraiment être en symbiose avec toi. Nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à ouvrir rapidement dans vos Bibles, dans Apocalypse chapitre 2. Our God is so good. Merci à l'équipe de louanges. Thank you, Jesus. Bien entendu, vous connaissez déjà par cœur Apocalypse chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons commencer au verset 8. Jésus est celui qui a eu l'idée de bâtir l'Église et il nous en a parlé. Et ensuite, il nous a invités à faire partie de son Église et à participer à son œuvre sur la terre. Il est important à chaque fois de vérifier le manuel d'utilisation lorsque vous achetez un appareil électronique, n'est-ce pas? Il arrive, par exemple, que notre équipe vidéo ne vérifie pas le manuel d'utilisation. Et quand je pose une question technique, une question simple comme « Est-ce que nos caméras ont des télécommandes, n'est-ce pas, fonctionnent avec des télécommandes ?»« Oh, il faudra que je regarde le manuel. » Je dis « Mais c'est quand même quelque chose de très basique qu'il aurait fallu savoir. » Mais notre équipe fonctionne avec des caméras et n'utilise pas le plein potentiel et parfois même utilise mal parce que l'équipe n'a pas vérifié le manuel des caméras. Dans ma voiture, il y a certaines fonctions que je cherchais avant de l'acheter. Et donc, je l'ai achetée parce qu'elle a ses fonctions. Cela fait presque 2 ans que je l'ai, je ne m'en suis toujours pas servie parce que je n'ai pas vérifié le manuel d'utilisation. Et à chaque fois, quand j'entre dans ma voiture, il faudra vraiment que je trouve le manuel. Il faut vraiment que je regarde le manuel. Parce que c'est quand même agréable de pouvoir avoir ça. mais je ne l'ai toujours pas vérifié. Et donc, je suis en train de passer à côté de choses importantes dont je pourrais bénéficier parce que je n'ai pas vérifié le manuel. La parole de Dieu est notre manuel. C'est notre manuel de vie, notre manuel de pensée, de fonctionnement, d'existence, tout ce que vous voulez. Dieu nous l'a donné pour nous montrer qui nous sommes en lui. Évidemment, d'abord pour nous montrer qui il est. Ensuite, qui nous sommes en lui et comment vivre une vie conforme à sa volonté. Et de la même façon qu'il y a une façon de fonctionner en tant qu'enfant de Dieu individuellement, il y a aussi une façon d'être, de fonctionner pour l'Église. Et pas l'Église E, avec un grand E, comme je dis, mais l'Église locale. Jésus s'intéresse à l'Église locale. Et pas uniquement pour décider qui va faire l'accueil et quelle couleur sera leur uniforme, parce que ce sont les choses qui nous préoccupent dans l'Église. Et qui va chanter à la louange, et est-ce que c'est moi qui chante, est-ce que je suis soprane, est-ce que je suis alto, et pourquoi il y a deux altos et peu de soprane. Et pourquoi ceci? Et il y a même des églises qui se divisent sur ces choses parce que c'est fondamental, vous comprenez, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais Jésus n'a jamais parlé de soprane ni d'alto. Évidemment, il y avait des chanteurs et des adorateurs dans l'Ancien Testament. Et nous savons que c'est quelque chose de très important. Mais ce qui intéresse le plus le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de découvrir dans ces lettres qu'il a écrites à ces églises. C'est là le manuel d'utilisation de l'Église. Qu'est-ce que Jésus veut? À quoi l'Église devra ressembler? En tant qu'Église locale, à quoi devons-nous ressembler? En tant qu'Église locale, comment devons-nous être pour que Jésus nous trouve agréable? Non pas pour que les visiteurs nous trouvent agréables, nous aimons toujours quand les visiteurs nous trouvent agréables, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous ici, un jour, vous étiez visiteurs. Vous avez regardé, vous avez analysé, scruté, médité. Glory to God. Et parfois, nous faisons les choses pour que les autres nous trouvent agréables. Et les églises aussi peuvent tomber dans ce travers où nous faisons des choses pour que les gens qui nous rendent visite nous trouvent agréables. Pour que les chrétiens qui quittent leurs églises pour venir chez nous nous trouvent agréables et qui restent chez nous et qui ne partent pas. Pour que le frère qui vient d'Australie et qui va repartir faire des rapports sur les églises en France nous trouve agréables. Et nous mettons des choses en place pour que beaucoup de jeunes viennent et qu'ils nous trouvent agréables, pour que beaucoup d'ados viennent et qu'ils nous trouvent agréables, pour que beaucoup de femmes mariées viennent et qu'ils nous trouvent agréables. Il faut beaucoup de femmes dans l'église parce que les femmes servent beaucoup. Les frères. Mais la seule chose qui compte, c'est que Jésus nous trouve agréables. Donc nous sommes en train d'étudier attentivement ces lettres de Jésus à l'église parce que nous voulons adopter tout ce qu'il nous dit comme étant bon et rejeter tout ce qui n'est pas bon. Ça va commencer avec l'église d'Éphèse. Et le mot Éphèse veut dire désirable, n'est-ce pas? Et c'est cette église qui était une église très forte, très assise dans la parole de Dieu, beaucoup de doctrine, une église entre guillemets fondamentaliste. Ne déroge pas à la lettre de la parole. Et quand vous arrivez, vous dites que vous êtes apôtre, ils vous font asseoir et commencent à voir, oui, et tel passé, je dis, ah non, tu es un faux apôtre. Des gens qui ne se sont pas laissés amener ailleurs, qui ne se sont pas laissés détourner. Pas comme ça peut nous arriver parfois où, en tant qu'église, on est tellement à l'affût des révélations récentes et des nouvelles découvertes archéologiques. Pour qu'à chaque fois, notre théologie change, notre doctrine change, et maintenant, on est en train de prêcher ceci, et maintenant, vous retournez dans cette église, ils sont en train de parler de tels mystères de « wow ». Et il y a toujours un orateur nouveau qui amène un vent nouveau, qui amène quelque chose que vous ne trouvez jamais dans la Bible, mais qui excite les gens parce que les chrétiens s'ennuient. Et cette église de Philadelphie, excusez-moi, j'aime l'église de Philadelphie, cette église d'Éphèse était une église qui ne se laissait pas entraîner dans ses travers, mais qui avait un défaut majeur. C'est qu'il y avait un déficit d'amour. La relation d'amour avec le Seigneur s'était un peu calmée. Et Jésus n'a pas approuvé cela. En dépit de tout ce qui était bon, et nous saisissons tout ce qui est bon, il y a ce que Jésus n'a pas approuvé. Et après avoir parlé à l'église d'Éphèse, rappelez-vous, ces lettres devaient être lues dans toutes les églises. Et nous comprenons aussi que ces lettres doivent être lues dans toutes les églises, dans toutes les générations, parce que ces lettres ont été écrites à des églises spécifiques, mais pour une raison spécifique. En d'autres termes, ces églises ont été réellement choisies parce que en les mettant ensemble, tout ce qu'il y a en elles caractérise tout ce qui doit être dans l'église, tout ce qui ne doit pas être dans l'église. Vous comprenez? Dans chaque église locale. Et donc, nous savons aussi que le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité de ce qui est complet. Et c'est dans cela que nous comprenons, à part le fait que la Bible tout entière est écrite à toutes les églises, c'est par cela que nous comprenons aussi que ces lettres nous sont destinées. Et il y a une structure qui est intéressante ici, une construction qui est intéressante, et même dans la présentation que Jésus fait de lui-même. Nous allons continuer au verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci, écrit à l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Silence. En cas de figure totalement différent, n'est-ce pas, par rapport à l'église d'Éphèse. Situation complètement différente. La première chose que vous allez remarquer, que peut-être si vous avez été attentive, c'est qu'il n'a pas fait de reproche à cette église. C'est une des deux églises qui n'ont pas reçu de reproche de la part du Seigneur. C'est très frappant. Et ce n'est pas nécessairement parce que cette église était parfaite, il n'y avait rien à dire. Mais cette église était dans une situation périlleuse. Et Jésus, sa compassion envers elle était telle qu'il la préparait pour ce qui allait suivre. Il la félicitait pour ce qui s'était passé. Il la préparait pour ce qui allait suivre. Et ne lui a fait aucune reproche. Smyrne était une ville de l'Asie mineure à une quarantaine de kilomètres d'Éphèse. Comme Éphèse, c'était une grande ville pour l'époque. C'était une ville très cosmopolite. Ces deux villes étaient un peu rivales en réalité. Et c'est une ville très cosmopolite, une ville qui avait une histoire très intéressante parce que elle avait été colonisée par les Grecs 1000 ans avant Jésus-Christ et ensuite à peu près 6 siècles avant Jésus-Christ, elle a été détruite, 6 ou 4. Elle a été détruite par les Romains, 6 siècles avant Jésus-Christ, elle a été détruite par les Lydiens, je crois. Et elle est restée détruite pendant 4 siècles. Et l'histoire nous dit qu'Alexandre le Grand, en passant par là, a eu une révélation comme quoi elle devait rebâtir cette ville. Donc, ou Alexandre, ou l'un de ses généraux, parce qu'après la mort d'Alexandre, son royaume a été divisé entre ses 4 généraux. Bien sûr, vous connaissez votre histoire, n'est-ce pas? Alléluia! Bon. Et donc, ils ont donc rebâti cette ville. Et elle a retrouvé une gloire extraordinaire. C'était une ville portuaire, beaucoup de commerce. Une ville extrêmement riche. Extrêmement riche. Une grande ville portuaire. C'était aussi une ville de culture, où il y avait beaucoup de Savoie, c'est une ville aussi qui avait un amphithéâtre, un peu comme Éphèse, de 20 000 places. Une ville avait beaucoup de gloire. D'ailleurs, ils avaient des pièces, et sur leurs pièces, ils indiquaient qu'ils étaient premiers en Asie. On l'appelait la gloire de l'Asie. L'Asie mineure, bien entendu, je répète encore pour ceux qui n'ont pas été là, que lorsqu'on parle de l'Asie dans la Bible, il n'est pas question de la Chine ni de l'Inde, mais de l'Asie mineure, n'est-ce pas? Et cette ville était donc une ville très fière, très orgueilleuse, très belle. Mais c'était aussi une ville où il y avait beaucoup d'idolâtrie, comme Éphèse. Et ce qui était particulier par rapport dans le cas de Smyrne, c'est que Smyrne était une ville très loyale envers Rome. Rome avait conquis beaucoup de territoires. Il y avait certains de ces territoires qui n'étaient pas du tout loyaux, qui essayaient à tout prix de se rebeller, comme la Judée, par exemple. Toujours de se rebeller. Mais cette ville était très loyale envers Rome et ils étaient les premiers à construire un temple à la déesse de Rome, Dea Roma. Et lorsque l'empereur Tiberius Caesar. C'est Tibère en français? Tiberius. Tibère. Bon. Donc, lorsque le César Tibère était au pouvoir, il y avait une concurrence entre une dizaine de villes pour savoir qui allait construire un temple en son honneur. Parce que, comme vous savez, n'est-ce pas, les Césars étaient des dieux. Et, ils ont, et c'est Smyrne qui a remporté cette compétition et qui a construit carrément un temple à la gloire de César. Et chacun devait offrir de l'encens au moins une fois par an. Et en plus, il y avait un certificat qui était donné pour dire que ça a été fait. Eh bien, pour les chrétiens, ça posait problème. Parce que les chrétiens considéraient que Jésus seul était Seigneur. Et Jésus seul pouvait être adoré. Ce qui était particulier, c'est par rapport à Smyrne, c'était le fait qu'il y avait une communauté juive locale qui était très hostile envers les chrétiens. Au début de l'ère chrétienne, les gens de l'extérieur imaginaient que le christianisme n'était qu'une secte du judaïsme. Donc, les deux étaient mélangés. Mais il y a des endroits où la distinction s'est vue très rapidement. Et Smyrne est un de ces endroits. Ce qui s'est passé, bien entendu, c'est qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés pour les chrétiens, parce que l'idolâtrie pénétrait tous les secteurs de la vie. Nous avons beaucoup de mal à imaginer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir le foot sans pour autant brûler l'encens à une idole, n'est-ce pas? À part l'idole foot, pour certains, matin, midi, soir, qui se prosternent devant la télévision. Mais le culte des dieux était très imbriqué dans la vie quotidienne, donc même dans le divertissement. C'est pour cela que certains des pères de l'Église à l'époque écrivaient et disaient que les chrétiens ne devaient participer à aucun divertissement. Parce que tout était empreint d'idolâtrie. Et cela contribuait aussi à la marginalisation des chrétiens qui étaient considérés comme des gens qui étaient asociaux parce que ne participant pas à ça, ni à ça, ni à ça, ni à ça. N'est-ce pas? Et donc, c'est une ville où les chrétiens ont subi beaucoup, beaucoup de persécutions. Et le mot Smyrne, retenez bien ceci, parce que ça en lien avec ce que nous allons voir plus tard, ce que Jésus a dit à cette église. Le mot Smyrne a la même origine que le mot myrrhe. Vous savez ce que c'est? Exactement. Utilisé pour embaumer le corps. Donc, les corps, donc, il y a un lien avec la mort. Rappelez-vous que cela fait partie des dons qui ont été amenés à Jésus lorsqu'il était à Nazareth, au moment où il était né. N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Certainement. Alors, je vous ai parlé du fait que cette ville a été rebâtie. Et donc, c'est une ville qui a connu la mort et qui a connu une résurrection. Et c'est aussi une ville dont le nom est lié au symbole de la mort. Nous sommes en train de voir donc pourquoi Jésus a choisi certaines villes spécifiques. Et ce qui se passe, c'est que Jésus écrit donc à l'église de Smyrne. Et comment est-ce qu'il se présente? Nous avons dit qu'il y a une structure, n'est-ce pas? Il se présente comme le premier et le dernier. Il se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est une image qui est très frappante. La manière dont il se présente à chacune de ces églises révèle un aspect de sa personnalité. Dieu va toujours vous parler de manière à révéler un aspect de sa personnalité. Et vous allez voir à quel point Dieu a de la sollicitude pour nous. Au moment où vous êtes là, où vous avez des difficultés financières, vous commencez à chercher la face de Dieu, Dieu va se révéler à vous comme Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. N'est-ce pas? Vous avez des combats dans votre vie, des combats dans des situations, il va se révéler comme Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Dieu se révèle à nous, nous permet de saisir une dimension de sa personnalité qui nous amène à voir son action dans notre situation présente. Qui nous amène à saisir à quel point Dieu est bon et à quel point Dieu est impliqué dans notre situation. Et Jésus voulait que ces gens comprennent qu'il était impliqué dans leur situation, qu'il avait de la compassion, de la sollicitude pour eux. Et il leur explique, moi je suis, et il leur dit, voici une lettre qui vous est écrite de celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier.
celui qui est de toute éternité, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui sur qui la mort n'a aucun pouvoir, celui qui a tout pouvoir sur la mort. Et les gens de cette ville comprennent ce que c'est mourir et ressusciter. Et plus que cela, les gens, l'église dans cette ville allait avoir besoin de connaître Jésus comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Comme celui qui donne la vie éternelle. Comme celui qui a le pouvoir sur la mort. Comme celui pour qui la mort n'a aucune importance. Et ils ont besoin de cette révélation du fait que la mort n'est pas la fin. Parce que lorsque les gens sont sur terre, vous avez l'impression que même des chrétiens, la mort, c'est, oh, c'est la fin, c'est fini, c'est une catastrophe totale. Pour un enfant de Dieu, la mort n'est pas une catastrophe totale. Ce n'est que l'antichambre de l'éternité. Lorsqu'un chrétien meurt et qu'il quitte la terre, ce n'est pas fini. En réalité, lorsqu'un chrétien meurt et qu'il quitte la terre, on peut être triste parce qu'il va nous manquer. On peut être triste parce qu'on ne va plus avoir sa présence. On peut être triste peut-être parce qu'il avait des projets qu'il n'a pas accomplis. Mais on ne peut pas être triste pour la personne. Parce que la personne est aux côtés de Dieu. Et être aux côtés de Dieu, c'est infiniment mieux que d'être sur terre. Ce n'est pas une raison pour se suicider. Mais vois comment les chrétiens ont tellement peur de la mort, on se demande ce qu'ils pensent va leur arriver après la mort. Et c'est important pour nous en tant que chrétiens d'avoir une bonne compréhension du fait que lorsqu'un chrétien meurt, la vie ne fait que commencer.
Amen.
Est-ce que vous m'entendez? Lorsqu'un chrétien meurt, la vie ne fait que commencer. Et c'est tout cela que Jésus voulait leur communiquer en se présentant comme le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est maintenant revenu à la vie. C'est merveilleux. Et en cela, on voit déjà cet amour merveilleux de Dieu pour nous. La manière dont Dieu vient, il ne nous change pas, mais il nous amène à voir une facette de sa personne qui est pertinente pour nous dans notre circonstance. Et lorsque l'on sait regarder vers Dieu dans les circonstances où l'on est, au lieu de se plaindre, il va se révéler à nous de telle sorte que nous allons comprendre qu'il est avec nous. La difficulté que nous avons, c'est que souvent, lorsque les chrétiens font face à des difficultés, ils commencent à se plaindre, à rouspéter, à maugréer et à rebrousser chemin. À, comme je dis souvent, renégocier leur contrat. Ajouter des avenants. Maintenant, il y a des si. Si tu fais ça, je continuerai à être fidèle. Sinon, Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il montre aussi sa divinité. Nous avons vu dans Isaïe 44, 6, dans le premier message de cette série, il nous a dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, en parlant de Dieu, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Lorsque Jésus se présente comme le premier et le dernier, il est en train de se présenter comme Dieu. Alléluia.
Amen.
Alléluia. Amen. Ça me fait penser à hier, ce que Béa partageait sur l'évangélisation qu'ils ont fait dans la semaine. Ils ont parlé à quelqu'un qui a dit qu'il était un catholique pratiquant. Et quand ils l'ont posé des questions, est-ce qu'il croit à la divinité de Jésus? Non. Ok, catholique pratiquant, tu ne crois pas à la divinité de Jésus? Non. La première chose quand on est chrétien, c'est croire que Dieu s'est manifesté en Jésus. Dieu, la parole s'est faite chair. C'est le béaba. Et vous croyez en la divinité de Jésus?
Amen.
Rassurez-moi, Abbas, vous croyez en la divinité de Jésus?
Amen.
Gloire à Dieu. Et ce que Jésus est en train de leur dire me fait penser à ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, au verset 28. Il dit ceci, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Nous avons besoin de méditer ces choses pour relativiser. Parce que nos églises sont trop craintives au 21e siècle. Nous avons peur de notre âme, nous avons peur d'un article dans le journal, nous avons peur d'une émission à la télévision, nous avons peur des gens qui ne croient pas en Dieu. Non, Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est un changement de mentalité que Dieu nous demande. En tant que chrétien, en tant qu'église, un changement total de mentalité, de façon de voir, de façon de percevoir les questions de la vie, de la mort, de l'éternité. Et quand Jésus commence à leur parler, il se présente, il commence à leur parler. Moi, je vois cette église qui est dans le tourment, qui est dans la tribulation, qui souffre et qui reçoit la lettre de Jésus. Et j'ai dit, je suis le premier et le dernier. Oh, wow. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Yes! Et ensuite, il leur dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il dit, je connais ta tribulation. Nous avons vu la semaine dernière à quel point c'est important de savoir que Jésus connaît. Il connaît. Et ça va déjà enlever les trois quarts de la prière de beaucoup de personnes qui, les trois quarts du temps, passent le temps. Ils disent, Seigneur, tu vois, je vais t'expliquer. Qui passent le temps à expliquer en détail tout ce qui ne va pas. Et dès qu'il y a un détail qui revient, non, non, on fait, il y a aussi ça. Non, 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 Seigneur, attends, il y a aussi ça. Et qui reviennent en détail sur tout et répètent, et redisent. Parce qu'ils sont persuadés que si je suis dans cette situation, c'est parce que Dieu n'a pas vu. Et il n'a pas compris. Et donc, chaque jour, on va prier sur la situation et on va tout dire, réexpliquer encore. Et se justifier de nouveau, bien sûr. Parce que nous n'avons jamais tort. C'est juste Dieu qui a une erreur d'appréciation. Et répéter, tout répéter. Mais lorsque nous venons déjà dans l'assurance que Jésus a vu et y voit, ce que nous demandons ensuite, c'est qu'est-ce que tu en penses? Comme nous avons vu la semaine dernière, Jésus connaît. Parce qu'il connaît, il a aussi une opinion là-dessus. Et nos prières changeront lorsque nous aurons saisi ces choses. En tant qu'individu et en tant qu'église, quel que soit ce par lequel nous passons, Jésus connaît. Il connaît. D'abord, il connaissait même avant nous. Souvent, quand il m'arrive quelque chose, je m'arrête, je dis, mais Seigneur, tu savais que ça allait se passer. Tu pensais quoi au juste? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Et qu'est-ce que je dois penser maintenant? Et parfois, nous, lorsque nous vivons des choses difficiles, nous pensons que c'est certainement parce que Dieu n'a pas vu. Non, s'il avait vu, il aurait compris que c'est sa responsabilité de régler ce problème et tout de suite. Non, il a vu. Jésus a dit, je connais ta tribulation. Vous savez, moi, j'aurais été dans cette église, je fais, et donc, ok, tu connais, et suite, s'il vous plaît, et tu l'enlèves tout de suite. Nous avons parlé de l'idolâtrie, de comment toute la vie dans cette ville était imprégnée de cela. Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que dans cette ville de Smyrne, il semblerait que les Juifs avaient un statut à part. Ils n'étaient pas obligés, eux, de sacrifier. Ils n'étaient pas obligés, eux, de faire ces expressions d'adoration envers César, ni envers ces idoles. Mais les chrétiens, non. Et ils étaient obligés. Et surtout parce que c'était nouveau tout ça. Et les gens ne comprenaient pas. Souvent, ils les voyaient juste comme des rebelles. Ils ne comprenaient pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ont des réunions secrètes? Pourquoi ils s'appellent frères et sœurs? C'est bizarre. Pourquoi ils sont des gens qui mangent de la chair et du sang, et boivent du sang? C'est curieux. Pourquoi ils adorent un Jésus qui a été crucifié? Ils disent qu'il est vivant. C'est bizarre. Et cette église de Smyrne a connu beaucoup de tribulations. Beaucoup, beaucoup de difficultés. A aussi connu beaucoup de pauvreté. Et Jésus a dit, je connais ta pauvreté. Et pour nous dire, alléluia, fais pleuvoir. Mais Jésus dit autre chose, bien que tu sois riche. En d'autres termes, tu as l'air d'être pauvre, mais en fait, tu ne l'es pas. Et nous allons voir une autre église à qui Jésus dit, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Vous comprenez pourquoi nous avons besoin de la perspective divine? De voir les gens avec les yeux de Dieu. De voir notre église avec les yeux de Dieu. De voir les églises avec les yeux de Dieu. Parce que souvent, nos idées sont complètement erronées. Et donc, ces gens pensaient qu'ils étaient pauvres et Jésus trouvait qu'ils étaient riches. Pourquoi est-ce qu'ils seraient pauvres? Ils pouvaient être pauvres parce qu'ils venaient des milieux sociaux assez défavorisés. Et souvent, dans la première église, dans l'église primitive, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui venaient des classes sociales inférieures. Il y avait aussi des gens haut placés qui étaient convertis. Mais par exemple, lorsque l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe, il leur a dit, il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui sont des nobles, qui sont des sages, ne sont pas de grands intellos parmi vous. C'est venu plus tard, il y a des philosophes et des intellectuels, des avocats comme Tertullien qui se sont convertis. D'ailleurs, Tertullien s'était converti. C'est un Africain, Tertullien. Pour tous les Africains qui sont ici, réjouissez-vous. Donc... Parce que les gens pensent que l'évangile est arrivé en Afrique au XXe siècle. Tertullien venait de Carthage, comme Augustin d'ailleurs. Beaucoup des pères de l'Église et des docteurs de l'Église venaient de l'Afrique du Nord. Et Tertullien, par exemple, était un grand avocat, il s'était converti et est devenu un de ceux qui écrivaient des thèses dans la défense de la foi chrétienne. Mais il y avait quand même beaucoup de gens de milieux sociaux défavorisés qui étaient convertis. C'était probablement le cas aussi à Smyrne. Dans 1 Corinthiens 1, 26, l'apôtre Paul écrit ceci. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et il continue en disant que Dieu choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Tous ceux qui pensent que mais je ne suis rien, t'es en bonne compagnie. C'est Jésus en nous qui fait la différence. C'est Jésus en nous qui fait la différence. Et ces gens aussi, certains d'entre eux étaient probablement appauvris à cause de leur foi. Parce qu'il y a des fois où les gens sont spoliés aussi quand ils donnent leur vie au Seigneur. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de cela. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Un grand combat au milieu des souffrances. Encouragez les nouveaux convertis qui pensent qu'ils soutiennent un grand combat. Dites-leur qu'ils sont en bonne compagnie. Que la foi chrétienne est faite pour les courageux. Et Dieu leur donne le courage. Et beaucoup de gens disent que la foi est juste une béquille. Pour ceux qui n'arrivent pas à supporter la difficulté de la vie, je leur dis, c'est tout le contraire. Il faut avoir un courage pour tenir ferme dans sa foi dans notre génération. Et c'est facile aujourd'hui de dire, ah moi je crois en rien, c'est très facile. C'est très, très facile. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne croient en rien parce qu'ils ont trop peur de commencer à croire en Dieu pour ne pas être persécutés. Quand quelqu'un vous dit, oui, ce n'est qu'une béquille. Tu veux essayer la béquille? Non, c'est pour des gens de courage et de force. Amen. Et Dieu nous saint de force. Amen. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ces gens qui, les premiers jours de leur foi, après avoir été éclairés, ils ont soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment important pour nous en tant qu'Église. Ce n'est pas une théologie de la souffrance où je souffre. C'est simplement avoir un cœur ferme, être des gens forts et courageux, que si nous devions souffrir pour notre foi, et alors? Et Jésus va nous dire, je connais votre tribulation. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ces gens qui ont subi des opprobres, qui ont subi des tribulations. À un certain niveau, beaucoup l'ont vécu dans leurs entourages, dans leur famille, quand ils se sont convertis. L'opprobre, les tribulations, les accusations, les malentendus, les irritations. Parfois même le problème, c'est l'heure de déjeuner. Il y a quelqu'un qui me disait que sa sœur était exaspérée parce qu'avant, elle déjeunait ensemble le dimanche après-midi. Maintenant, elle rentre trop tard pour déjeuner avec eux, avec toute la famille. Il faut qu'il garde son repas pour elle parce qu'elle va à l'église. Et maintenant, ça pose problème. Les choses qui posent problème dans notre génération, c'est extraordinaire. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, c'était des chrétiens qui étaient faits prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ce sont des choses qui se sont passées, l'enlèvement de vos biens, et ce sont des choses qui se passent encore aujourd'hui. J'ai lu récemment le livre d'un chrétien chinois qui avait été persécuté en Chine, faisait partie de l'église, ce qu'on appelle les églises de maison, les house churches, et l'église non officielle, très persécuté, mis en prison plusieurs fois. Et ce qui se passait, quand ils mettaient quelqu'un en prison, ils mettaient un homme en prison, et ils allaient chez lui, et ils enlevaient tout. Ils vidaient la maison. Et l'épouse et les enfants vivaient dans le dénuement. Tout pour mettre la pression, pour pousser les gens, ou à renoncer à leur foi, ou à s'inscrire dans les églises dites officielles contrôlées par l'État. Et lui expliquait justement comment toute sa famille avait été spoliée. Et sa femme vivait dans le plus grand dénuement avec sa mère. Les deux, les pauvres, devaient aller travailler dans le champ et elle souffrait atrocement. Sa mère était même tombée, elle est tombée malade. Heureusement, Dieu l'a guérie, mais des privations parce qu'ils ont cru en Jésus. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à cette église. Je connais votre pauvreté. Et ce qui est dit dans Hébreux, c'est vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous avez des biens meilleurs. C'est un changement de mentalité. Parce que souvent, les chrétiens vont tout faire pour acquérir des biens ici, y compris violer la loi de Dieu, y compris mépriser les choses de Dieu, y compris se détourner de ce que Dieu veut parce qu'il faut qu'ils acquièrent des biens sur la terre. Et Dieu nous dit qu'il y a des biens meilleurs. Dites des biens meilleurs. Il y a des biens meilleurs. Mais ce que Jésus n'est pas en train de faire ici, c'est l'apologie de la pauvreté. Il n'est pas en train de nous dire que nous sommes appelés à être pauvres. Il n'est pas en train de nous dire que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons pauvres. Vous aurez remarqué que ce n'était pas nécessairement la volonté parfaite de Dieu pour que ces gens soient maltraités comme ils le sont. Mais Dieu se sert de ces situations. Et ce que Dieu veut, c'est que quelle que soit la situation où nous nous trouvons, pour lui, nous devons lui rester fidèles. Il n'est pas question de dire, oui, mais si je suis pauvre, ce n'est pas la gloire de Dieu. Donc, je vais faire le sacrifice à César pour que je puisse prospérer. Comme ça, les gens vont savoir que Dieu m'a prospéré. Comme ça, les gens vont reconnaître que mon Dieu est grand. C'est une bonne logique ou une mauvaise logique? Non, je vais vous écouter. Ça nous paraît évident que c'est une mauvaise logique, mais nous avons la même logique aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui n'honorent pas la loi de Dieu, qui ne servent pas Dieu, qui se concentrent sur la création de richesses et qui veulent et qui pensent qu'en ayant des richesses, les gens vont voir que Dieu les a bénis. Et que les gens vont dire décidément ton Dieu est grand. Les gens sont moins impressionnés par l'argent parce qu'ils en ont eux aussi et ils n'ont pas de Dieu. Que par notre fidélité. Que par notre constance. C'est ce que nous sommes en tant que chrétiens qui impressionne les gens. Si nous voulons attirer les gens à Jésus juste parce que nous avons de l'argent, n'importe qui peut les attirer. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent qui ne sont pas à Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est important parce que nous avons compris dans notre génération que Dieu veut nous bénir financièrement, il veut pourvoir à nos besoins. D'ailleurs, si Jésus a dit à cette église qu'ils sont riches, c'est aussi en partie parce qu'ils ont la provision qu'il faut. Dieu est là pour leur donner la provision qu'il faut en dépit de leur pauvreté. N'est-ce pas? Et nous avons compris que Dieu veut que nous soyons bénis en tant que chrétiens, qu'il n'y a aucune raison pour que nous soyons pauvres, que ce n'est même pas une vertu d'être pauvre en tant que chrétien nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres et qui sont méchants. N'est-ce pas? Ce n'est pas une vertu, non. Mais nous sommes allés dans le sens opposé, du genre, c'est l'argent sinon rien. Quitte à aller à l'encontre de la volonté de Dieu, mais on va gagner de l'argent et on va dire, voilà, Dieu nous a bénis. N'est-ce pas que Dieu est grand? Et ce n'est pas comme ça. C'est important pour nous de saisir ces choses. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de Tertullien. Tertullien a été converti, non pas parce qu'il a vu la richesse financière des chrétiens, parce que lui-même était un homme riche. Il s'est converti parce qu'il a vu leur courage dans l'adversité. Il a vu comment ils restaient fidèles envers leur Jésus en dépit de leur souffrance, en dépit des attaques de leur société. Il a vu leur constance, leur sérieux et leur engagement. Et c'est ça qui l'a attiré. Et c'est lui qui a eu cette fameuse phrase Je pense d'ailleurs que c'est un peu détourné. Vous avez déjà entendu les gens dire que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Dans un de ses livres, il a parlé du fait que les chrétiens sont la semence de l'Église. Et il a écrit aux responsables romains de sa province. Il a fait tout un écrit là-dessus qui est très intéressant. Et il a expliqué, plus vous nous tuez, plus nous allons croître. En disant qu'en dépit de la persécution, l'Église va continuer à se multiplier. C'est ce que nous avons constaté dans certains pays comme la Chine, par exemple. En dépit de la persécution, l'Église a continué à se multiplier. Continuer à se multiplier. Nous avons reçu le même évangile. Est-ce que vous êtes d'accord?
Amen.
Nous avons reçu le même évangile.
Amen.
Nous avons reçu le même Jésus. Nous n'avons pas reçu en Jésus bis, en Jésus dilué au 21e siècle. Jésus est. Nous parlons beaucoup des endroits où il y a beaucoup d'idolâtrie, où ils ont un panthéon de Dieu et ils ajoutent Jésus. Il y a des gens, ça ne leur dérange pas de croire en Jésus et 3000 autres dieux. Mais nous aussi, souvent, nous avons Jésus et. Ces gens, Jésus a dit, je connais votre tribulation et je connais ta pauvreté, mais bien que tu sois riche. En d'autres termes, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Toi, tu vois la pauvreté, moi, je vois la richesse. Déjà parce que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Jésus a dit, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste sera ajouté par la suite. Et parce qu'il est capable de pouvoir, mais aussi parce qu'il y a une richesse qui va au-delà de la richesse matérielle. Cette richesse spirituelle. C'est pour cela qu'il nous a dit d'amasser des trésors au ciel et non pas sur la terre. Il y a quelque chose dans la vie d'un individu, votre manière de vivre et de marcher avec Dieu, qui peut ne pas porter des fruits matériels sur terre, mais qui porte des fruits spirituels. Et quand vous allez vous retrouver devant Dieu, vous allez voir ce que Dieu va vous présenter comme le résultat de votre vie et vos œuvres, et vous allez vous en émerveiller. Nous devons garder la réalité de l'Éternel en tête. Parce que notre vie chrétienne est trop souvent axée sur le matériel, le tangible, le ici, le maintenant. Or, nous sommes des créatures d'éternité. Est-ce que vous pouvez le dire à quelqu'un? Deux personnes, dites-toi, une créature d'éternité. Éternité. D'éternité. Jésus leur dit, vous êtes riches. Bien, tu es riche.
Amen.
Tu es riche.
Amen.
Tu es riche. Et il y a des gens qui disent, tu es riche. Ah, j'espère. Non, tu es riche. Tu es riche. Nous, nous regardons dans le mur et disons, oh, ça ne va pas, je n'ai rien. Je suis riche. Bien que tu sois riche. Ça, c'est faux. C'est ce que Dieu voit. Encore une fois, perspective divine. Ce que Dieu voit. Et ce que Dieu voit, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Nous pouvons voir les gens. Moi, je vois une jeune fille devant moi. Elle a les cheveux courts. Elle est très jolie, très stylée, très classe. Et chacun fait, ah, c'est moi. Non, c'est pas toi, Yanis. Non. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais Dieu regarde au cœur. Jésus dit, bien que tu sois riche. Ce que j'aime, c'est que Jésus puisse me dire, je te trouve riche.
Amen.
Et ce n'est pas mon compte en banque qui décide si Jésus me trouve riche ou pas. Ce sont mes œuvres. C'est ce qu'il voit à l'intérieur de moi, ce qu'il voit entre mes mains. Je veux que Jésus me trouve riche. Je ne sais pas pour vous, quand vous lisez ces choses, je dis, oh oui, oui, ils sont trop riches. Je me dis, ah, ça c'est moi. Whatever it takes, Jesus. Et Jésus nous parle aussi des calomnies. Vous avez déjà reçu des calomnies? Donc ces gens avaient la tribulation, la pauvreté, les calomnies, mais la totale. Les calomnies. Ils étaient persécutés, calomniés par des gens religieux. Et ça se passe dans toutes les générations, dans tous les siècles. Des gens religieux qui ne sont pas d'accord avec votre doctrine et qui vous calomnient. Dans ce cas précis, il semblerait que ça venait des Juifs dans la ville de Smyrne, mais ça pourrait aussi venir de ceux des chrétiens qui avaient adopté des pratiques juives. On les appelait dans l'église des judaïsants, ou qui gardaient les pratiques juives et voulaient imposer cela à toute l'église. La circoncision, les pratiques, le sabbat, et ainsi de suite. Il y avait tout un conflit dans l'église primitive par rapport à cela. Et l'apôtre Paul a essayé de faire comprendre aux gens, non, c'est une nouvelle alliance. Nous ne devons pas obliger les gentils à devenir des juifs avant de pouvoir être chrétiens. Il y a beaucoup de conflits et beaucoup de divisions à ce sujet. Et Jésus est en train de leur dire, des gens religieux vous calomnient. Et quand il dit, ils ne sont pas ce qu'ils pensent être, ça doit nous mettre un peu de crainte. Parce que parfois nous sommes convaincus de notre truc, n'est-ce pas? Et nous pouvons manquer beaucoup d'amour et même être très méchants envers d'autres chrétiens. Très désagréable envers d'autres chrétiens. Et ce que j'aimerais vraiment, Abba, c'est que nous fassions très attention dans notre manière de traiter des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec nous. Dans notre manière d'être avec des églises chrétiennes, mais qui ont une autre façon de faire. Nous n'avons pas le droit de calomnier. Sinon, nous nous mettons du même côté que ces gens. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, ils pensent qu'ils sont des juifs, mais c'est une synagogue de Satan. D'autres termes, ils sont en train de faire la volonté du diable. Dans tout, quand vous connaissez l'histoire de l'Église, toutes les générations, tous les siècles, il y a des gens religieux. Eux seuls savent tout sur tout. Et calomnient d'autres chrétiens. Il y a tellement de gens qui juste veulent servir Dieu. Mais une telle pression, la calomnie, la médisance, et servent de porte-parole au diable. Quand Satan veut détruire un chrétien, il va chercher un chrétien qui va déclarer des malédictions sur lui. Parce que nous manquons de sagesse et que nous manquons réellement d'amour. Nous disons des choses, nous attaquons d'autres églises, nous disons du mal, ouais, ils ne comprennent rien, ils ne savent rien de ça, ils ne savent rien de ça. Oui, mais tel serviteur et tel pasteur, il y a ceci. Et nous nous utilisons comme porte-parole du diable pour les attaquer. Il faut faire très, très attention. C'est quelque chose qui déplaît au Seigneur. Qui déplaît vraiment au Seigneur. Parce qu'ici, il n'y a même pas question de péché. Ce n'est pas que ces gens, l'église de Smyrne, aient péché, se soient éloignés du Seigneur. C'est des gens qui servent Dieu fidèlement. Mais il y a d'autres qui ont estimé qu'ils avaient le droit de les calomnier. Vous savez, les paroles ont une influence très négative sur les gens. Les paroles négatives peuvent amener la dépression dans la vie de quelqu'un. Quand les gens parlent et disent du mal, il y a des esprits méchants qui se servent de cela pour venir attaquer une personne. Et c'est important de briser le pouvoir de ces mots sur les gens. Je vous invite à faire attention à ce que vous dites sur les autres, ce que vous dites sur d'autres églises. Est-ce que vous comprenez, quand les gens servent Dieu fidèlement, ils ne savent pas tout, vous non plus. Ils servent Dieu fidèlement, ils se donnent, ils souffrent pour l'évangile. Et que vous vous permettez de les calomnier. Vous vous prenez pour qui au juste? Le confident de Dieu? Il est venu se plaindre à vous? C'est vraiment important parce que nous nous arrangeons des droits si nous savions. Si nous savions, et Jésus a une parole très forte, il a dit, c'est une synagogue de Satan. C'est fort. C'est une dénonciation terrible. Terrible de ces personnes qui calomnient l'église de Smyrne. Jésus voit, ces gens les voient, ils ne voient que du mal et ils disent du mal. Jésus les voit, ils voient la richesse. Ils voient la richesse. Je prie vraiment pour que nous ayons la compréhension de l'importance de l'église aux yeux de Dieu. De l'amour que Jésus a pour ses églises. Et de la manière dont Jésus œuvre pour le bien-être de ses églises. Et que nous n'acceptions jamais que nos vies, nos actions, nos paroles servent de moyens d'attaque pour le diable contre les églises. Vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais. C'est « we agree to disagree ». Ça, c'est des gens très civilisés. On n'est pas d'accord. Bon, on n'est pas d'accord. Ça s'arrête là. On ne va pas se crêper les chignons. On ne va pas se battre. On ne va pas se maudire. On ne va pas médire. On va juste, bon, c'est leur perspective, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas la mienne. Bon. Pourquoi en tant que chrétien, on ne peut pas faire ça? Pourquoi faut-il constamment médire et maudire? Récemment, il y a un serviteur de Dieu qui, du haut de sa connaissance infinie, a fait toute une grande conférence sur les chrétiens charismatiques. Nous serions-nous en train d'adorer des veaux d'or? Ah oui, il a été très fort. Il est allé très loin. Très, très loin. Mais très, très loin. Très loin. Tellement loin que c'était devenu ridicule. Tellement loin que c'était devenu ridicule. Le mouvement charismatique n'aurait rien apporté au christianisme. Aucune contribution théologique ni spirituelle. Il faut être aveugle pour dire une chose pareille. Dans le monde entier, on voit Dieu agir principalement à travers les églises charismatiques parce que ce sont celles qui osent y aller franchement. Et on aurait corrompu l'église entière, tout entière. Moi, je bénis Dieu pour les églises charismatiques. Mais moi, j'ai grandi dans une église traditionnelle. Et ça m'a éloigné de Dieu. Je bénis Dieu pour la manière dont ils nous ont fait comprendre que Dieu peut être connu. Dieu n'est pas une espèce de nébuleuse dans une autre galaxie, intouchable, inatteignable. Ces choses qui pour vous sont normales, dans ma génération, c'est une découverte extraordinaire. On a commencé à voir ces born again, c'est qui ces gens-là, on les voyait comme des oiseaux bizarres. Surtout qu'elles avaient de longues robes, les femmes. Et au bout d'un moment, on commençait à comprendre. Et on commençait à voir. Et la réalité de Dieu. Et d'autres de l'extérieur qui ne veulent rien, ne croient pas, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de ceci, il n'y a plus de dons de l'esprit, et qui font toute une conférence pour casser, pour détruire. Je ne dis pas que c'est d'eux que Jésus parle ici, je dis simplement qu'il faut faire attention. N'est-ce pas? Les calomnies sont en train de faire le travail du diable. C'est ce que Jésus dit ici, ils font le travail du diable. Mais là où je vais accélérer, vous allez aimer ça, parce que cette partie... Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que Jésus dit tout ce bien de cette église. Après, il leur dit, ne craignez pas. N'ayez pas peur, parce que ce n'est pas fini. Maintenant, est-ce que vous voulez encourager votre voisin? Dites-lui, n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur.
C'est pas fini. Tant que vous êtes sur terre, il y aura de l'adversité. Et vous avez décidé que vous allez vaincre.
Amen.
Non pas que vous allez vous cacher, mais que vous allez vaincre.
Amen.
Dans le temps, je priais, je disais, Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Que je sois plus coriace que lui. S'il s'entête contre moi, je m'entête contre lui. Mais ce n'est pas moi qui vais baisser les bras, ce n'est pas moi qui vais laisser tomber. Et Dieu aime ce genre de prière. Glory to God. Fais tout têtu. Je ne lâcherai jamais. C'est lui qui lâchera. Et Jésus dit à cette église de Smyrne, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » J'imagine que c'était une bonne nouvelle. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Et on va dire, « Mais pourquoi Jésus n'a pas arrêté la souffrance ?» Il va nous dire dans quelques instants pourquoi il n'a pas arrêté la souffrance. Il dit, « Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Pourquoi ? Afin que vous soyez éprouvés. » Il y a des choses, il y a des situations où nous serons éprouvés. Nous serons testés. Vous ne savez pas? La solidité de votre foi sera testée. Est-ce que c'est une foi de prospérité? C'est une foi de Jésus. Tant que tu vas bien, hallelujah, God is so good. I'm blessed, and Jesus, I'm blessed. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, il nous dit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » Complète. Sujet de joie complète. Pour donner une démonstration de la joie complète, comment est-ce qu'on fait quand on a une joie complète?
Waouh! Alléluia! Dieu est merveilleux! Dieu est bon!
Yes!
Il est super!
Ouh! Yes! Amazing!
Alléluia!
Considéré comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oh, isn't God good? Il y a des fois où nous sommes éprouvés. Et le message de Jésus ici, c'est de dire, quel que soit ce qui vous arrive à cause de votre foi, ne faites jamais de compromis. Jamais. Jamais. Jésus leur dit de ne pas avoir peur. Et il leur dit, vous allez être jetés en prison. Si on prêchait ça dans nos églises, car oh non, je lis cela. Mais Jésus dit qu'il y a une raison pour cette épreuve, c'est que vous soyez éprouvés. Nous ne sommes pas jetés en prison partout, mais il y a des gens qui sont jetés en prison aujourd'hui pour leur foi. Nous avons constamment des requêtes, ce sont des demandes, des signatures, des pétitions, voilà, on finit par y arriver, des pétitions signées en faveur de telle chrétienne dans tel pays, et ce sont ceux que l'on voit. Il y en a que l'on ne voit pas. Il y en a qui ne l'on voit pas. Dans le nord du Nigeria, régulièrement, il y a des chrétiens qui sont massacrés pour leur foi. Parfois, aller à l'église, là-bas, c'est une épreuve de foi. Juste venir le dimanche matin. En français, il n'y a pas de métro. C'est, oh zut, le métro a 5 minutes de retard. Oh, je ne pourrais pas aller aujourd'hui. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas Abraham. Jésus leur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable, jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. On demande souvent pourquoi c'est 10 jours. En réalité, on ne sait pas. Mais vu l'imagerie dans Apocalypse, on imagine que 10 jours représentent une période, mais pas nécessairement une dizaine de jours. Parce que ces gens qui ont tellement vécu la souffrance, une dizaine de jours, pour eux, ce n'est pas grave. Vous comprenez? Ça peut être une dizaine d'années, parce que parfois les jours sont utilisés pour représenter des années. D'autres pensent que c'est pendant le règne d'une dizaine d'empereurs. Parce qu'effectivement, dans l'histoire, il y a une dizaine d'empereurs qui ont persécuté les chrétiens. Le dernier, c'était Dioclétien, et lui, c'était grave. C'était vraiment grave. Et c'était sur le règne de Domitien que l'apôtre Jean a eu cette vision. Ça a commencé avec Néron, en fait. Et on pense que c'est Néron qui a fait tuer Paul et Pierre. On parle beaucoup de morts aujourd'hui, hein. Mais vous sortirez d'ici vivants. Alléluia. Certains commençaient à se poser la question. Où est-ce qu'elles vont venir avec tout ça? C'est chaud aujourd'hui. Alors que je voulais aller jouer au golf, j'ai dit, j'aime Jésus, je viens à l'église. Dieu nous rend forts, inébranlables. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Certains vont être jetés en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est la pensée de Jésus. La pensée de Jésus, c'est qu'il n'y a pas de raison d'être infidèle. Oui, mais ils allaient me tuer, et alors? Parce que de toute façon, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Si tu tues, tu reviendras à la vie. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. N'est-ce pas? C'est un changement de mentalité. Oui, mais on risque de mourir. Et alors? Je vous ai raconté un serviteur de Dieu qui parlait d'un de ses partenaires qui devait partir en mission en Afghanistan, je crois. Et son père l'a contacté pour qu'il lui dise de ne pas y aller. Parce que c'est très dangereux. Et il a dit, mais je ne peux pas lui dire ça, si Dieu l'a envoyée là-bas, il faut qu'elle y aille. Elle sera plus en sécurité là-bas que dans son lit. Et elle est partie, elle est revenue en bonne santé. Il y a une autre qui devait partir, mais son mari lui a interdit d'y aller. Et elle est morte dans un accident de voiture, dans son pays. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il vaut mieux être fidèle envers le Seigneur. Jusqu'au bout. Et ne pas dire, oula, je ne peux pas y aller. On devait partir au Pakistan. Bon, tout le monde connaît l'histoire. C'est là où vous savez si vous aimez Jésus. Hein? Parce qu'il y a des pays encore aujourd'hui où on tue les chrétiens. Il y a des pays encore aujourd'hui où il suffit que quelqu'un dise que vous avez dit du mal de leur prophète pour qu'on vous arrête. Sans même que quiconque l'entende. Hein? Et lorsqu'il y a un homme politique qui défend la personne, l'homme politique en question est assassiné. Et Jésus leur dit ceci, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » C'est extraordinaire. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, ce n'est pas juste qu'à vider ton compte en banque. Il y a des gens qui peuvent être fidèles jusqu'à vider leur compte en banque. Ils disent, ah, j'ai donné tout au Seigneur. Ah non, j'ai fait le cas, j'ai tout donné. Là, c'est moi et toi, j'ai confessé, j'ai la foi. J'ai tout donné. Non, sois fidèle jusqu'à la mort. Ça nous fait réfléchir, n'est-ce pas? Ça nous fait réfléchir sur notre engagement envers le Seigneur. Nous sommes fidèles jusqu'où? Jusqu'à la première insulte, nous sommes fidèles jusqu'à ce qu'il faut faire un choix. Nous sommes fidèles jusqu'à ce que Pierre le païen arrive. Hein? Et certains finissent par comprendre. Nous sommes fidèles jusqu'où? Et c'est à quel moment où nous décidons que ben, finalement on ne va pas suivre Jésus? À quel moment est-ce qu'on décide que finalement je vais faire les choses à ma façon? À quel moment vous êtes fidèles jusqu'où? Je ne sais pas, pour vous, moi, ça me fait réfléchir. Et ça me fait prier. Et Seigneur, nous voulons, Abba House, être une église fidèle jusqu'à la mort. Parce que vous savez, certains d'entre vous, nous allons vous envoyer au Tibet. Il y a des volontaires? Glory to God. Et d'ailleurs, il est estimé qu'il y a beaucoup plus de chrétiens qui ont été massacrés pour leur foi au 21e siècle. Que pendant tous les autres siècles de l'histoire de l'Église. Et en Occident, on ne s'en rend absolument pas compte. Nous, notre problème majeur, c'est qu'on nous traite de secte. Et à cause de ça, beaucoup rétrogradent. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de pays au monde, les gens meurent parce qu'ils sont chrétiens. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y en a qui refusent de changer et qui acceptent volontairement. Ce n'est pas simplement qu'ils vont à l'église et quelqu'un met une bombe à l'église à leur insu. C'est qu'ils sont confrontés à leurs assaillants, ils ont la possibilité de renier Jésus et disent non. Cet homme, ce pasteur chinois, il parlait de... Si vous trouvez ce livre, The Heavenly Man, je vous encourage à le lire. Il va vraiment vous encourager. C'est Reinhard Bonnke, je pense qu'il disait que vous allez le commencer assis et vous allez le terminer à genoux. Wow. et il disait qu'ils ont été très touchés par l'exemple des missionnaires occidentaux. Les missionnaires occidentaux qui étaient allés en Chine. Vous savez, à l'époque, quand vous partiez en Chine, vous partiez pour la vie. C'était pas « je vais, je reviens demain ». Comme aujourd'hui, moi, j'étais partie à Pékin, vite fait, je suis revenue. À Pékin, j'étais dans une église, il y avait plusieurs milliers de personnes, des étrangers essentiellement, et des Chinois de l'étranger, parce qu'en Chine, les Chinois locaux n'ont pas le droit d'être au culte avec des étrangers. Ils n'ont pas le droit. Et les églises n'ont pas le droit d'avoir des biens, donc l'église loue constamment. Et même cette église d'étrangers, entre guillemets, en discutant avec la personne qui accueillait les gens à la fin, cette personne m'expliquait que cette personne était chinoise de l'étranger, m'expliquait comment les Chinois font la queue. Même dans les églises officielles, ils font la queue autour du bloc pour pouvoir entrer dans une église. Et dans les églises où il y a des étrangers, les grandes églises ont toutes les facilités. Et il me dit, mais dans une église comme celle-ci, les gens arrivent en retard. Ah, j'ai eu beaucoup de peine. J'ai dit, c'est pareil chez nous. À Paris, les gens arrivent en retard. Rien ne les empêche de venir à l'heure, mais ils arrivent en retard. Et là où les gens ont du mal à louer Dieu, ils font la queue pour entrer dans l'église. Et l'église, il y avait beaucoup d'Européens, les gens arrivent en retard. Il y a beaucoup de places, superbe auditorium. On est à l'aise. Et il m'a dit, la ferveur, ce n'est pas comme ici. Et c'est vrai. La ferveur. Et quel est notre engagement envers Jésus? Et j'étais frappée par ce qu'il a dit. J'ai dit, mais c'est pareil en France. Et les gens font le tour. Ils attendent. Mais dans une église comme celle-ci, c'est sa propre église. Les gens arrivent en retard. J'ai senti sa douleur. J'ai dit, ouais, nous aussi. Les gens ont toute la liberté, ne sont menacés en rien, mais ils arrivent en retard. Ce n'est pas très important. Pas besoin d'être à l'heure. Tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'adresser un message à Jésus. Tout ce que nous faisons. Et cet homme, dans son livre, il parlait des missionnaires qui étaient venus. Parce que ces gens donnaient tout, donnaient leur vie, quittaient tout. Il y a beaucoup de jeunes femmes célibataires. Pour toutes ces femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas servir Dieu si elles ne sont pas mariées. Il faut suivre Pierre le païen parce que... Ces femmes, elles partaient en Chine pour annoncer l'évangile. Et c'est l'exemple que les chrétiens chinois ont vu. Ces gens qui étaient prêts à donner leur vie à cause de Jésus. Cet exemple les a inspirés. Et vous connaissez l'histoire. À un moment donné, le gouvernement de la Chine a expulsé tous les missionnaires. Tous les missionnaires. Et les gens partaient en pensant que cette jeune église chinoise allait mourir, mais elle n'est pas morte. Parce que les gens, les Chinois se sont levés. Et ont fait un travail extraordinaire. Et ont bravé l'opprobre, et ont subi des mauvais traitements pour le nom de Jésus. Et ils disaient, Jésus vaut la peine. Jésus vaut la peine. Et on leur disait, si tu renonces à ton Jésus, tu peux être libre. Alors, il n'est pas question. Donc pendant 70 jours, il n'a pas mangé. Il priait. Et tous les hommes dans sa cellule qui avant le maltraitaient, ils lui mettaient de l'excrément au visage. Mais il a subi un mauvais traitement, vous ne pouvez même pas imaginer. Tous les hommes, sans exception, dans sa cellule ont été convertis. Il y a un sacrifice. Nous ne pouvons même pas passer deux coups de fil à quelqu'un dans la semaine parce qu'on est très occupés. Si nous voulons que notre génération connaisse Jésus, il y a un don de soi. Il y a une acceptation de ce qui ne nous arrange pas. Si les apôtres attendaient ce qui les arrangeait, ils ne nous auraient jamais amené l'évangile. Jésus vaut bien la peine. Et cet homme a dit, quand il a fini par pouvoir gagner l'Occident, Et il était déçu. Parce que tout ce qu'eux savaient de l'Église occidentale, c'était les missionnaires qui étaient venus, qui étaient prêts à tout donner, qui ont donné leur vie, parfois ont été massacrés et ont été chassés. C'est tout ce qu'ils voyaient. Donc, ils pensaient que l'Église en Occident était une Église zélée. Et quand il est arrivé, il a été déçu. Il est allé dans les églises, il dit, mais c'est quoi ça? Et tout ce qu'il y avait, c'était encourager les gens. Hey, Dieu vous aime! Hey! Et c'était tout. Jamais on appelle au sacrifice, jamais on appelle à se donner à fond pour le Seigneur. Toujours caresser les gens dans le sens du poil. À tel point que Jésus n'a pas plus de valeur pour nous que le gâteau au chocolat. Les deux sont doux et agréables. Et quand ça cesse d'être doux et agréable, là, non, non, non. On relativise. Ce que nous croyons est une vérité éternelle. Une vérité éternelle doit fondamentalement changer notre être. Fondamentalement changer nos valeurs, fondamentalement changer notre optique. Et Jésus nous dit, il dit à cette église, sois fidèle jusqu'à la mort. Quel que soit ce que ça te coûte, sois fidèle. Nous, c'est, ah oui, mais tu sais, moi je voulais servir Dieu, mais après j'ai vu que, ah, tu n'es pas sérieux. Tu n'as pas rencontré Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort. Abba House seront fidèles. Glory to God. Et je te donnerai la couronne de vie. Et c'est pour cela que les gens parfois ne comprennent pas. Lorsqu'ils viennent, ils disent, oui, mais il y a ça. Y a... Si, mais ce n'est pas bon aux yeux du Seigneur. Oui, mais pasteur, vous êtes trop dur. Ce n'est pas une question d'être dur. Nous devons être fidèles envers Jésus. Beaucoup de choses ne nous arrangent pas dans la chair. Mais si ça arrange Jésus, ça m'arrange. Si ça arrange Jésus, ça m'arrange. Il dit, je te donnerai la couronne de vie. C'est ça que je veux, la couronne de vie. Ce n'est pas ce qui est sur terre ici que je veux, c'est la couronne de vie que je veux. Et quand il dit qu'il donnera la couronne de vie, c'est un concept qui revient souvent dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à Timothée, par exemple, il lui a dit que lui, son moment était fini, qu'il était sur le point de partir. Je vais vous lire le passage. Pour moi, je sers déjà, dit, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Dites à vos enfants, remplis bien ton ministère. Et l'apôtre dit ceci, car moi, pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Écoutez ce qu'il dit vers la fin de sa vie. Ça rejoint la promesse que Jésus leur a faite ici, de leur donner la couronne de vie. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous allez garder 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 la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oh, glory to God. C'est comme ça que je veux mourir. Avant de partir, je dis, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardez la foi. Maintenant, je viens recevoir ma couronne. Alléluia. Et dit, cette couronne est pour nous aussi. Il y a d'autres références à la couronne. Dans 1 Corinthiens 9, le même apôtre Paul qui écrit, qui parle du fait que ceux qui courent sur la terre s'imposent toute espèce d'abstinence. Abstinence. Abstinence. Ce n'est pas que ce que vous pensez. Ça veut dire simplement la discipline de vie. N'est-ce pas? Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Notre terme, les gens qui sont des athlètes, qui sont des sportifs, ils s'imposent une certaine discipline de vie. Parce qu'ils veulent une couronne. Mais c'est une couronne corruptible. Et nous qui voulons une couronne incorruptible, il y a une façon de vivre. Ce n'est pas je vis de n'importe quelle façon parce que Jésus fait grâce. Et ce que Jésus a dit à cette église, et il nous a dit la même chose que celui qui a des oreilles, entende. Qui a des oreilles? Est-ce qu'il y a des oreilles? C'est à vous qui parle. Qu'il entende. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il y a une première mort, il y a une seconde mort. Alléluia. Quand on est deux fois, on ne meurt qu'une fois. Quand on ne naît qu'une fois, on meurt deux fois. Glory to God. Alléluia. Tu vas réfléchir après, ma fille. Je vois le regard interrogatif. Sujet méditation. Je vais finir en vous racontant l'histoire d'un homme que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Qui est-ce qui connaît Polycarpe? Polycarpe était effectivement disciple de l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Et Polycarpe, plus tard dans la vie, était devenu l'évêque de cette église de Smyrne. Et Polycarpe est quelqu'un qui est mort pour sa foi. Un jour, il y a eu tout un remue-ménage, et ils ont saisi une dizaine de chrétiens pour les faire périr. Et ils se sont tellement excités, ils ont décidé, « Où amener Polycarpe ?» Parce que c'était lui leur chef, n'est-ce pas, l'évêque. Un vieux monsieur déjà, devait avoir une centaine d'années. Ils voulaient le chercher, et lui est allé se cacher quelque part. Rappelez-vous ce que Jésus a dit? Ils vont vous persécuter ici, fouillez dans une autre ville. Il est allé se cacher dans une ferme et après il est allé se cacher dans une autre et il a fait un rêve. Et dans son rêve, il a vu un oreiller qui brûlait. Et pour lui, c'était un signe de la part du Seigneur du fait qu'il allait mourir, qu'il allait être brûlé. Et il s'est rendu. Et lorsque les gens sont venus le chercher, il leur a demandé, il leur a donné à manger. Il a dit qu'il lui donne un peu de temps pour prier. Il est allé prier. Et ces gens étaient tellement émus et tellement touchés par sa personne, ils n'ont pas voulu l'arrêter. Ils lui ont dit, mais quand même, ils ont essayé de le raisonner pour qu'au moins ils disent que César est Seigneur. Il a dit non. Et quand ils l'ont amené devant leur chef, lui aussi a essayé de le convaincre avec douceur pour qu'il dise, bon, abat les athées, c'est-à-dire les chrétiens. Vous vous souvenez, les chrétiens étaient considérés comme des athées parce qu'ils servaient un Dieu invisible, n'est-ce pas? Et lui disait, abat les athées en pointant la foule. Et il était fâché, le chef exigeait qu'il renonce à Jésus, qu'il déclare que César est Seigneur. Et ce que Polycarpe a dit est resté célèbre. Polycarpe a dit ceci, « Pendant 86 ans, j'ai servi Christ et ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» C'est important pour nous de savoir que Jésus ne nous a fait aucun mal. Quel que soit ce que les gens nous font parce que nous croyons en Jésus, Jésus ne nous a fait aucun mal. Et cet homme a été brûlé vif pour sa foi. C'était la démonstration de ce que Jésus leur disait ici. Mais est-ce que vous savez que quand vous allez le voir au ciel, il n'y aura pas d'odeur de fumée sur lui? Il y aura une couronne sur sa tête. Pour la plupart d'entre nous, nous n'allons pas mourir pour notre foi. Vous n'êtes pas convaincu? Mais nous allons vivre pour Jésus. Et en vivant pour Jésus, chaque jour, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Fidèle dans la vie. Fidèle dans nos choix. Fidèle dans nos relations. Fidèle dans nos décisions. Fidèle envers Jésus. Fidèle envers sa parole, fidèle, tout ce qui est agréable à Dieu, tout ce qui n'est pas agréable à Dieu ne nous est pas agréable. Et c'est à ça que Jésus nous appelle. Le principe de base dans cette lettre, c'est que Jésus nous dit en tant qu'Église de ne pas chercher le confort, de ne pas chercher la facilité, de chercher uniquement le royaume de Dieu et sa justice, de chercher uniquement ce qui est agréable à Dieu. Même si ça devait nous coûter, et beaucoup nous coûter. Pas de raccourci, pas de solution de facilité, et pas de renoncement à l'évangile, ni au principe de l'évangile, pour nous faciliter l'existence. Sois fidèle, jusqu'à la mort. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Nous avons fait une déclaration de fidélité envers le Seigneur ce matin. Alléluia. Commencez à dire au Seigneur que vous allez lui être fidèle. Pas juste que vous voulez, mais que vous allez. Et après, vous allez lui demander de vous fortifier. Glory to God. Et Dieu nous fortifie. Il y a des choses qui, pour nous, paraissent immenses. Et quand on commence à demander à Dieu de nous fortifier, il nous fortifie au point où ça devient naturel. Naturel. Ce que nous ne devons pas faire, c'est demander à Dieu de renoncer à sa parole pour nous arranger. Alléluia. Alléluia. Commencez à prier là où vous êtes. Thank you, Jesus. Faisons une déclaration ensemble devant le Seigneur. Père Céleste,
me voici
en tant qu'individu.
Et nous voici
en tant qu'Église. Père, nous nous présentons devant toi. En disant que nous avons entendu
l'interpellation de Jésus
à l'égard de son Église.
Nous te serons fidèles.
Nous recevons
la mort,
la résurrection,
l'ascension de Jésus.
Nous recevons la rédemption,
la nouvelle vie,
la réconciliation avec toi,
que nous recevons
à cause de Jésus.
Nous acceptons
de faire partie
de ton Église.
Ton Église universelle,
ton Église locale.
Et nous acceptons aujourd'hui
les injonctions de Jésus
envers son Église.
Ce que Jésus demande à l'Église,
nous sommes prêts
à être
et à faire.
À ne plus être,
à ne plus faire
ce qu'il ne désire pas.
Père Céleste,
nous allons être fidèles,
quel que soit
ce que cela nous coûte.
Parce que nous croyons
que celui qui t'est fidèle
n'est jamais perdant.
Nous voulons, Père,
vaincre.
Nous voulons, Père,
être dans le camp des vainqueurs,
de ceux qui gardent la foi,
de ceux qui combattent le bon combat,
de ceux qui maintiennent le cap.
Parce que, Père,
nous voulons nous aussi
recevoir cette couronne de vie
que Jésus a promis
à ceux qui restent fermes.
Et nous ne voulons pas connaître la seconde mort.
Donc, Père,
nous te demandons,
par ton esprit,
transforme-nous.
Transforme notre mentalité.
Transforme notre vision de nous-mêmes.
Transforme notre vision de l'Église.
Que cette Église Abba House
et chacun de nous,
présents aujourd'hui
et à venir,
que nous comprenions
ce que nous devons être
en tant qu'Église.
Père,
nous t'invitons,
fortifie-nous,
donne-nous la hardiesse,
donne-nous la force,
donne-nous la force de conviction,
donne-nous une assurance ferme
dans ce que nous avons cru,
pour que nous puissions être
cette Église inébranlable,
imperturbable,
solide,
fondée sur le roc.
Forte,
puissante
et capable d'affronter toutes les circonstances
et rester fidèle
envers Jésus.
Nous te remercions, Père,
pour le sang de Jésus
qui a lavé nos péchés
et qui nous a permis
d'être réconciliés avec toi.
Au nom de Jésus.
Amen.
Père Céleste, nous te remercions. Te remercions pour ce culte que nous avons passé ensemble avec toi.
Ce temps que nous avons passé ensemble avec toi, pour ce culte que nous t'avons offert.
Nous te remercions, Père, d'avoir agréé notre offrande.
Te remercions, Père, d'avoir reçu nos louanges.
Merci d'avoir partagé ton cœur avec nous aujourd'hui.
Merci d'avoir inspiré ce message.
Merci d'avoir pénétré ces paroles dans nos cœurs.
Merci d'avoir amené un changement de mentalité.
Père, nous savons que ce n'est que le début.
Ce que tu vas faire en nous et dans cette Église, c'est quelque chose qui dépasse déjà notre entendement.
Mais nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions, Père, pour tous nos frères et sœurs qui ne sont pas encore avec nous et qui vont nous rejoindre. Te remercions de ce que ta parole va agir dans leur vie également. Te remercions pour toutes les personnes vers qui tu vas nous envoyer cette semaine, qui ont besoin de savoir que Jésus les aime, qui ont besoin de savoir que la vérité est en Jésus, que le salut est en Jésus. Père, nous te remercions parce que tu vas agir. Alors que nous parlons, comme tu l'as promis, ton esprit va agir avec nous. Cette semaine, nous comptons sur toi parce que nous allons sortir et nous allons parler de Jésus. Et nous comptons sur toi pour que tu m'amènes les bonnes personnes sur notre chemin et que tu touches leur cœur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah.